One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéenne.
Et je suis Edmond Baudouin.
Et je suis Olivier Coulon-Jablonca.
Et tous les deux, ce soir, vous êtes noir et blanc et bleu.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Le vent tourne pour Don Quichotte. Jusqu'à hier, le grand pianiste turc Fazil s'est risqué 10 mois de prison, avec sursis, pour une collection de tweets jugés injurieux envers les valeurs religieuses. Mais comme l'a déclaré son avocate, l'insulte, c'était surtout d'avoir essayé de le condamner parce qu'il avait osé exprimer son opinion, citant par exemple les vers d'un grand poète persan du 9e siècle, Omar Khayyam, à propos du paradis musulman. Vous dites que des flots de vin coulent au paradis? Est-ce que le paradis est une taverne? Après 3 ans de feuilleton judiciaire, le tribunal a confirmé la décision de la Cour suprême d'appel en acquittant Fazil Say. Conclusion, faut s'accrocher, oser se frotter au moulin. Ça ne s'arrache pas comme ça, la liberté d'expression. Quitte à oser pour ne pas se laisser restreindre l'horizon de la pensée, je ne saurais que trop vous conseiller de découvrir le travail du plasticien turc Mehmet Ali Uysal, directeur du département d'art de la plus grosse université d'Ankara. Ses œuvres semblent produites par les murs même de la galerie. Un rouleau de mur blanc qui laisse apparaître un mur de briques. L'artiste dissout les limites du white cube et s'efface pour questionner ce qui fait art ou pas, ce qui nous limite ou pas dans l'espace, une façon suggestive de rester libre. Solution concrète à vos problèmes les plus abstraits, c'est sa première exposition personnelle en France et elle s'ouvre ce soir à Paris, à la galerie Paris-Beijing. Baudouin, vous êtes à votre manière aussi un Don Quichotte. Vous avez très tôt été dans cette position justement d'essayer non pas de repousser les murs comme le fait cet artiste kurde, mais de repousser les cases de la BD. C'est quelque chose que vous avez eu aussi comme ça, ce combat Don Quichottien.
Il me semble que je ne suis pas aussi grand que les dessins de Don Quichotte, non. Je serais peut-être un Don Quichotte. Je ne suis pas non plus Sancho Panza, non. Mais j'aime bien pousser des portes, oui. Ça me plaît, ça me plaît.
Et vous, Olivier Coulon-Jablonca, au théâtre, vous aimez, à l'instar de cet artiste, arracher tout ce qui fait le décor pour qu'on voit et qu'on le regarde en face, le mur qui serait une réalité sans phare? C'est une partie de votre travail.
C'est ça, Don Quichotte, c'est celui qui transperce les murailles de carton. C'est ça que vous voulez dire par rapport au décor de théâtre? Je sais pas, moi j'aime bien quand on voit la machinerie. Après Don Quichotte, en effet, c'est une grande figure littéraire. Je sais pas si on peut l'évoquer pour nous, mais oui, en tout cas, montrer de quoi l'illusion est faite et qu'est-ce qu'il y a derrière les visières et les décors.
Il y a encore une grande figure littéraire en ouverture de votre spectacle.
Ping-pong, c'est sur France Culture.
Chaque jour, l'homme fait de nombreuses tentatives pour être admis et fatigue le gardien par ses prières. Le gardien lui fait fréquemment subir de nombreux interrogatoires et lui pose toutes sortes de questions sur son pays et sur bien d'autres choses. Mais ces questions sont posées avec indifférence, comme le font les gens importants. Et il conclut à chaque fois qu'il ne peut toujours pas le laisser entrer maintenant.
Nous sommes au 81 avenue Victor Hugo, c'est le titre de votre nouveau spectacle, Olivier Coulon-Jablonca, de ce spectacle qui est présenté du 13 au 17 septembre au Théâtre de la Ville, puis les 8 et 9 novembre prochains au Théâtre de Sartrouville, dans le cadre du Festival d'Automne. Un spectacle que vous avez écrit avec Barbara Mettet, Chastanier et Camille Planier. Un spectacle qui met en scène la parole d'une poignée d'hommes qui ont traversé la Méditerranée, qui ont navigué tout autour de la Méditerranée pour parvenir jusqu'en France, venus qui de Ouagadougou, qui d'Abidjan, qui de Dhaka au Bangladesh, et qui se retrouvent au 80 avenue Victor Hugo, où vous les avez rencontrés, puisque c'est un lieu à Aubervilliers, où qu'ils ont investi une ancienne antenne de Pôle emploi, et vous les avez rencontrés, vous avez puisé leurs paroles pour faire un spectacle une pièce d'actualité, comme vous le dites, Olivier Coulonge-Ablonca, qui a été présentée au Festival d'Avignon et qui donc aujourd'hui est présentée dans le cadre du Festival d'automne. Et pour ouvrir ce spectacle, c'est non pas la parole, le récit de ces hommes qu'on entend tout d'abord, mais le procès de Kafka. Est-ce qu'on peut dire que votre spectacle est kafkaïen, mais peut-être véritablement kafkaïen, parce que Vialat avait pu dire qu'aujourd'hui tout est kafkaïen, quand on rate la mayonnaise, c'est la faute de Kafka. Là, on est vraiment chez Kafka, peut-être dans ce que je crois Ionesco disait de lui, c'est-à-dire que son œuvre est labyrinthique. Il y a quelque chose de labyrinthique dans ce récit, dans ce spectacle?
Oui, Kafka, ça nous a donné en fait la clé de la structure à un moment donné dans l'écriture, du montage de toutes ces paroles. Puisqu'on voulait éviter aussi l'aspect biographique et témoignage. Donc, en effet, il y a une forme de chose qui est séquencée et la parole est prise en charge de façon chorale et forcément labyrinthique dans tous ses parcours, puisqu'ils sont pas passés par la même route pour tous. Certains sont là depuis 10 ans, certains sont arrivés il y a un an maintenant, un peu plus d'un an. Voilà. On a commencé par les interviewer. Ça a mis un petit peu de temps avant de pouvoir rentrer en confiance avec eux. Il y a eu aussi beaucoup de vivants. On les a accompagnés dans leur lutte. Mais en effet, dans cette question de, parce que vous avez cité un extrait de Kafka, donc où les questions donc de cet homme qui essaye de rentrer derrière la porte et
à chaque fois de la loi.
Voilà, et donc dans ces couloirs d'administration, ils ont affaire aussi avec ces petites questions auxquelles ils doivent répondre.
Ces interrogatoires, voilà. On pense bien sûr au récit pour les demandeurs d'asile, oui.
Donc en effet, très vite dans l'écriture, on était dans cette position un peu double et. Et on n'a pas du tout gardé en fait de dialogue, c'est-à-dire c'est que des monologues. Nous, on s'est complètement effacé du montage, et c'est vraiment le plateau leur est donné pour qu'ils puissent non pas comparaître comme dans un tribunal, mais plutôt reprendre l'espace de ce théâtre. Voilà, donc c'était dans le geste, c'était une chose d'hospitalité pour nous. Moi-même, en tant que metteur en scène, j'ai été modifié puisque ce sont pas des comédiens au départ. Ils m'ont beaucoup appris. Voilà, je peux vous raconter l'histoire.
Mais oui, mais on voudrait aller un petit peu plus loin sur cette idée de Kafka qui finalement arrive un peu comme une exergue dans un livre, comme ça, en ouverture, ça nous donne le ton, ça nous donne l'intention. Et c'est vrai que ce qu'il y a de kafkaïen dans ses démarches, effectivement, on le retrouve, de kafkaïen aussi dans les embûches, les arnaques qui les attendent, et peut-être aussi de très kafkaïen sur la situation des sans-papiers aujourd'hui. C'est-à-dire que dans votre spectacle, qui a aussi une valeur informative. Il faut le rappeler, on va découvrir des témoignages. On nous dit, voilà, moi, j'utilise le passeport de mon cousin, et c'est comme ça qu'en fait, je travaille de façon légale. Mais donc, il y a des sans-papiers qui travaillent à la préfecture, il y a des sans-papiers qui travaillent dans les centres de rétention et qui s'occupent donc d'autres sans-papiers. Donc, on est effectivement dans une situation qui va presque plus loin que Kafka, non?
Bah oui, tout à fait, parce que qu'il fallait montrer. Bon, la plupart travaillent dans la sécurité, sont maîtres chiens, donc ils sont dans cette double position. Donc ça nous a évidemment fait penser à Kafka. C'est une adaptation du procès, vous avez raison. Après, moi j'aime bien en effet commencer, quand vous dites c'est une exergue, c'est une façon en effet de placer un peu la question de la loi au centre, hein, puisque nous-mêmes, dans la production de ce spectacle, on a été très rapidement mis en face de difficultés, de situations complètement kafkaïennes, quand ils étaient encore... Pour les comédiens, pour les interprètes qui sont aujourd'hui au plateau sans papier, on n'a pas le droit de faire un contrat à un sans papier. Par contre, c'est ce que la préfecture leur demande pour les régulariser. Donc vous voyez la folie déjà de l'affaire. Donc voilà, ça a été aussi exposé au moment de la création, de cette difficulté-là. En effet, on est forcément...
Comment l'avez-vous résolu, justement?
On l'a jamais vraiment résolu, c'est-à-dire qu'on a toujours été dans l'illégalité. On n'a pas toujours été dans l'illégalité. Mais si vous voulez, si vous déclarez les gens comme amateurs, vous pouvez pas jouer un certain nombre de représentations, si c'est un atelier. Donc on était toujours dans cet entre-deux. Donc les choses étaient en fait explicitées. Vous parliez de Don Quichotte tout à l'heure, mais c'était juste de faire tomber un peu le décor, et voilà comment s'est produit ce spectacle. À la fin, on disait voilà, toutes ces questions-là, en fait, nous, on les a rencontrées.
Et vous faisiez tourner le chapeau.
On faisait tourner un chapeau, mais avant, on racontait qu'on était obligé on pouvait pas déclarer ces gens-là, et que donc ils n'étaient pas payés comme les autres interprètes des autres pièces d'actualité, parce que cette pièce s'inscrit dans un programme des pièces d'actualité à la commune d'Aubervilliers. Voilà, et les choses étaient dites, quoi.
Et ce qui frappe dans les choses qui sont dites, Olivier Coulon-Jablonka, c'est en particulier dans la parole de ces hommes qui, l'un après l'autre, s'avancent sur la scène pour dire une partie de leur histoire, c'est leur discours et leur regard naïf, celui de l'étranger. Est-ce que vous, Baudouin, vous vous considérez aussi comme un étranger partout où vous allez et peut-être est-ce nécessaire pour vous, pour sentir chaque lieu dont vous vous emparez un peu, la façon dont vous avez travaillé à Vitrolles, par exemple, pour un album que vous aviez fait en 2005.
Oui, je crois on est tous étrangers, en vérité, qu'on le dise ou non. J'écoute, là, je découvre un peu, hein, parce que je n'ai pas vu la pièce, je ne savais pas le processus de la chose. Et il y a quelque chose d'énorme avec ces gens, ces immigrants qui arrivent ou qui sont déplacés, les gens qui ont perdu quelque chose avec leur famille. Et là, il y a quelque chose qui est redonné. Quand on perd l'espace où on était, c'est pas l'espace tellement, c'est les gens qui vous connaissaient dans cet espace qui est important. Et les gens qui vous connaissent, c'est de l'éternité. Quand vous êtes plus avec le village, avec les personnes qui vous ont vu naître, grandir, vous perdez l'éternité. Et le problème, c'est comment reconstituer de l'éternité. Parce que si on meurt, on n'existe plus. Hein, quand on est comme ça, immigrant, sans papier, nulle part, rien, on n'est rien.
Mais tu parles de l'éternité,
Olivier,
mais vraiment cette question.
Olivier Coulon-Jablonka qui répond.
Oui, bah oui, parce que cette question du temps pour nous, elle était essentielle. C'est-à-dire que les parcours très souvent s'étalent sur plusieurs années avant d'arriver en France. Et quand ils arrivent, en fait, ils comprennent qu'ils en ont pour 10 ans, en fait, encore d'attente. Et donc ce lieu
de 10 ans pour avoir la carte de séjour.
Voilà.
D'un an.
Et donc il y a une attente qui est pas de l'éternité, mais qui est quand même une espèce de.
Il y a aussi
de purgatoire.
Pour pouvoir commencer à exister. Alors. Est-ce que je suis un étranger? Oui, peut-être. Non. Mes racines sont tellement enfoncées dans les oliviers de mon village, là, que je
près
peux
Nice.
Être partout dans le monde. Et quand je marche, il y a des morceaux des racines qui vont avec moi. Et puis, je ne suis jamais un immigrant. Si je suis au Québec, si je suis en Colombie, si je suis à Vitrolles, je suis chez moi aussi. Je reviens. Je suis pas dans la position d'un immigrant, jamais.
Ce qui est intéressant aussi, quand on revient sur le parcours d'Olivier Coulon-Jablonka, c'est que vous aviez été remarqué dans un collectif qui s'appelait Chez les Nôtres. C'était un spectacle qui dénonçait l'impuissance des artistes, en fait. Et j'ai l'impression qu'avec ce spectacle, vous répondez à ce que vous aviez mis en place à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui non seulement propose de nous parler d'actualité brûlante, qui fait aussi exister ces récits dans le temps, dans l'éternité, comme le disait Baudouin, mais qui agit sur le réel. Est-ce que vous n'êtes pas dit là finalement que vous aviez une solution à la quadrature du cercle? C'est-à-dire que il se trouve que concrètement, les gens qui jouent sur scène, le préfet est venu voir la pièce de théâtre, et en échange de ce moment artistique, il a eu une sorte de libération comme ça, il s'est dit tiens, oui, ils vont être régularisés. Donc là, vous avez peut-être résolu ce problème de l'impuissance.
Bon, elle est difficile votre question parce que en vrai, on peut pas mesurer l'art à son efficacité dans le réel, en vérité. Après, en effet, dans cette expérience-là, bon, disons, on s'inspire de ce qui se passe dans la vie et on transforme un peu la vie de ces gens-là.
Mais est-ce que finalement, c'était pas quelque chose que vous regrettiez de ne pas arriver à faire et que vous arrivez peut-être à faire avec ce spectacle?
Oui, après je pense que c'est pas une bonne façon de peser en fait, parce que le problème c'est on va pas pouvoir faire de l'art avec ça. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je pense qu'il y a aussi des contingences. Il y a un timing dans l'actualité aussi. Je pense que si on avait fait cette pièce 7 mois après, pas dans ce lieu-là, pas avec cette histoire-là, avec la mairie, ce territoire-là, les choses se seraient pas déroulées de la même façon.
Donc, c'était à Aubervilliers, une commande de la commune.
Voilà. Je pense que le dispositif de la pièce a permis, si vous voulez, c'est pas une pièce qui dénonce, qui accuse, mais c'est une pièce en effet qui s'est construite pour accompagner cette lutte aussi. dans une commande, donc dans un type de travail où moi, j'en ai un peu rabattu à certains endroits. Vous voyez, j'étais pas là pour démontrer mon savoir de metteur en scène. Et tout ça a fait que, voilà, quelque chose a été possible. Mais je pense qu'il faut vraiment séparer les deux sphères. Je pense que nous, notre travail, c'est de déplacer des lignes esthétiques et c'est ça, cet enjeu politique. Que ensuite, cette chose-là, elle a une résonance dans le monde, bien sûr, qu'on le souhaite. Mais il faut faire attention à pas... Parce qu'on risque de rabattre la politique à un travail sociétal, vous voyez.
Bien sûr.
Je pense pourtant,
c'était une heureuse concomitance, finalement.
Oui, oui. Et voilà, et sur Chez les Nôtres, en effet, c'était un théâtre qui était moins militant, mais qui était politique, qui réfléchissait à l'héritage brechtien, voilà, et qui le mettait en jeu d'une autre façon.
Baudouin, vous êtes battu contre le diktat de la ligne claire, ça vous parle, faire bouger les lignes esthétiques? Vous continuez toujours?
Bien, mais sans véritablement avoir une idée préconçue là-dessus. Hein. Je fais, c'est tout. Je fais et on me permet de faire. Et je continue à faire. Mais quand je suis venu à la bande dessinée, je ne suis pas venu pour casser quelque chose. Hein. Simplement, je ne connaissais pas la grammaire de la bande dessinée. Alors j'ai cassé ce qu'il y avait sans savoir que je cassais. Si j'avais su, si j'avais lu des bandes dessinées enfant, j'aurais été plus poli.
Il y a quelque chose qui... Cependant, Olivier Coulon-Jablonka me semble à nouveau réunir et le spectacle et ce qui est dit dans les témoignages donc de ces hommes qui se racontent et qui racontent leur exil, qui racontent leur migration. C'est la notion de ruse, parce que chacun doit ruser tout au long du parcours et encore quand ils sont arrivés en France pour parvenir à vivre, à survivre et peut-être à avoir des papiers. Il est question d'ailleurs des ruses et des expédients qu'ils utilisent. On dit vivre d'expédients, mais au fond, il y a un sens noble à l'expédient, comme on dit d'Ulysse qu'il a mille expédients. Est-ce qu'il y avait voilà pas quelque chose aussi de l'ordre de la ruse, peut-être malgré vous, à la fois dans les effets du spectacle pour chacun des comédiens et des effets du spectacle pour le propos que
oui, bien sûr, il y a une stratégie qui a été pensée par rapport à ce spectacle. En effet, il y a une, vous avez raison, la ruse elle est positive, elle est déployée aussi dans le spectacle sur ces épisodes-là, et puis eux-mêmes font du théâtre aussi dans leur parcours, donc le rapport à leur histoire biographique, il n'est pas du tout dans une forme de pathos, il est déjà mis en jeu et déjà il est encore plus distancé avec la pièce, mais la façon dont ils le racontent, il y a déjà du théâtre. Ils racontent comment des fois ils vont s'habiller à l'américaine pour passer l'aéroport. voilà, donc cette présence du costume, cette présence en effet du déguisement, elle est
tout à fait présente. Ils se redonnent, ils se refilent des costumes de vigile pour pouvoir sortir tranquille dans la rue.
Oui. Donc là encore, ils sont toujours dans des figures doubles, quoi. C'est-à-dire même l'un d'eux raconte qu'il boit le café avec des policiers, il est invité à l'anniversaire, ça devient presque un ami, et il est obligé de partir à un moment donné.
Parce que
c'est un secret professionnel. Voilà.
Donc, on peut commencer comme ça. Bon, tout premièrement, je me nomme Zundi Suleiman. Nom de famille Zundi. Suleiman est le prénom. J'ai 34 ans. J'ai dépensé 1 500 000 francs CFA pour les visas et encore 500 000 francs CFA pour les billets d'avion. Mon but de voyage, c'était la Grèce. Quand le visa est venu, c'était pour la Turquie. Je leur ai dit que non, ça ne se passe pas comme ça. Leur explication était qu'une fois que tu arrives en Turquie, si ça ne te plaît pas, tu prends le métro et puis tu vas en Grèce. Le premier jour, quand je suis arrivé comme ça, la personne qui m'a accueilli, elle m'a expliqué ce qui se passe. En fait, il n'y a pas une certaine métro comme ça pour t'amener en Grèce. Hein? Elle dit, ah bon? Elle dit oui. Pour que tu puisses te diriger jusqu'en Grèce, il faut encore que tu payes. Moi, ça m'a coûté 700 euros. Mais le trajet, il est mauvais. Dès la Turquie à la frontière, c'était dans les forêts. On a marché. Et de là-bas, on a pris le bateau. Ce bateau, il n'était pas conçu en bois. C'est presque un zodiac, quoi. J'entends l'eau battre près de toi, ça fait peur. Si tu tombes, c'est grave, quoi.
L'une des séquences de 81 avenue Victor Hugo. Vous pourrez découvrir cette pièce jusqu'au 17 septembre au Théâtre de la Ville. C'est dans le cadre du Festival d'automne. Vous signez la mise en scène, Olivier Coulon-Jablonka. Et vous avez aussi donc eu un travail préparatoire pour obtenir, on va dire, la théâtralité de ces récits. Comment vous avez travaillé, par exemple, avec Souleymane? Et aussi, pourquoi c'était important pour vous qu'il y ait ces notes d'humour, quand même, malgré tout, dans le spectacle, il y en a beaucoup?
C'est quelque chose qu'on a eu au moment des entretiens. Donc pour nous, c'était très important. On filme tout, on enregistre tout. Donc on a comme un référent, si vous voulez. Le risque, c'est toujours, si on refait en improvisation, d'anticiper sur la façon dont on veut présenter les choses, etc. Donc voilà. Et puis j'ai travaillé comme avec les acteurs. C'est-à-dire, voilà, l'un d'eux disait, c'est le théâtre, c'est plus fatigant que la sécurité. Et on fait, on refait encore, on attend.
Que la sécurité, agent de sécurité, vous voulez dire
agent de sécurité, oui, parce qu'ils passent, enfin voilà. Ils
passent leur vie debout.
Voilà, bah c'est un peu pareil dans le théâtre, quoi, on refait. Et bon, ce qui est toujours rigolo, mais c'est derrière nous maintenant tout ça. Mais c'est les inattendus, c'est quand on arrive avec le texte et l'un d'eux dit mais ça sera tous les soirs le même texte. Donc il faut qu'ils réapprennent leurs propres mots par cœur avant de retrouver. Il n'y a pas de naturel, vous voyez, il n'y a pas de spontanéité du témoignage. Il y a vraiment un travail de distanciation qui est fait, toujours dans une adresse au public, avec un jeu avec le présent des récits. L'idée, c'était qu'ils puissent raconter comme ils avaient raconté toutes ces histoires.
Et la distanciation, elle est aussi Olivier Coulon-Jablonka. Dans la nature de ce qu'il raconte. Là, on entendait le témoignage de Souleymane qui, à la fin, dit sur le Zodiac, si tu tombes, c'est grave, quoi. Évidemment, si tu tombes du Zodiac, c'est la mort.
Oui.
Y a une violence qui affleure par moments dans le témoignage de ces hommes qui sont en scène. La mort, les viols dans le désert. Mais toute cette violence, elle est comme mi-dite. Elle est dite à moitié seulement. Est-ce que ça tient aux témoignages qui vous ont été apportés la première fois, ou est-ce que ce sont pas aussi, peut-être, des choix que vous avez faits de ne pas décrire crûment, frontalement, la violence, comme on demande de le faire aux demandeurs d'asile, quand on est l'OFPRA, par exemple, où là, il faut raconter des atrocités. On y est un peu obligé, tenu.
Oui, après, il y a des choses qu'on n'a pas gardées aussi, donc c'était toujours la question de la limite. La structure aide beaucoup, en fait, la structure par épisode sur les aventures et le contraste avec la partie en France. Voilà, après, l'autre chose de distanciation, c'était en effet dans le choix des figures, c'est-à-dire l'un d'eux raconte aussi la figure du passeur, par exemple, l'idée qu'on peut s'en faire, nous, et la réalité.
Il y en a même qui incarnent le passeur, ça c'est très intéressant, vous avez
ou alors jouer même, le rôle là, du passeur. On voit bien dans l'extrait que vous avez choisi qu'il y a un petit capital qui est investi, et donc il se ruine pour arriver. Enfin, donc, bon, moi je dirais que c'est plus dans la précision, je crois beaucoup aux matériaux bruts, en fait, et évidemment que le théâtre se glisse là-dedans, il y a des moments de rethéâtralisation. Et donc c'est dans des opérations de montage, avec on prend des ciseaux, des papiers, on condense. Voilà, les choses ont été très peu réécrites, mais elles ont été extrêmement montées et parfois un peu condensées.
Baudouin, comment vous réagissez-vous justement qui vous penchez à votre manière distanciée, évocatrice, sur la traversée des migrants dans cet album Méditerranée?
Oui, j'avais une question avant à Olivier. Quand vous les entretiens avec eux, ils étaient séparés ou ils étaient tous ensemble quand ils parlaient de leur mémoire, de leur voyage, de leur passage?
Nous, on avait présenté collectivement en fait la demande, la requête. Ça a été long avant qu'ils acceptent, et ensuite on traînait là-bas et chacun venait. Enfin, chacun. Ils sont 80, hein, même un peu plus. Donc voilà, on a fait 11 entretiens.
Donc rassemblés dans ce 80 avenue Victor Hugo.
C'était un ancien bâtiment Pôle emploi à l'abandon.
Voilà. Mais par contre, je vois bien le sens, enfin je crois deviner le sens de ta question, c'est qu'en effet, c'est pas des choses dont ils parlent entre eux.
Comment parler devant les autres?
C'est pas des choses dont ils parlent entre eux. Il y a eu ce moment où en effet, on s'est réunis tous, au moment où dans l'organisation, il s'est trouvé que c'était finalement ces 8 qui pouvaient, parce que parfois ils travaillaient, donc ils pouvaient pas non plus se libérer ce temps-là, enfin voilà, ouais. Ils avaient peur, enfin... Et ils ont découvert parfois les histoires des uns et des autres.
J'ai vu cela en Colombie où je faisais le portrait de gens que je rencontrais, mais quand je faisais les portraits dans la rue où tout le monde venait voir le dessin, les réponses étaient très différentes de quand je pouvais être avec troupes, on était tous les deux, qu'on pouvait être vis-à-vis de la personne et la manière de s'exprimer et d'aller très loin dans ce qu'il disait. Oui.
Oui, ce qui était très beau aussi dans l'espace du théâtre, c'est comment les choses ont bougé. C'est-à-dire qu'ils avaient une organisation, puisque c'est la réunion de trois collectifs qui se sont retrouvés dans ce lieu avec l'aide du DAL à l'époque.
Le droit au logement.
Et entre eux, ils avaient une certaine organisation. Il y avait aussi des délégués, il y avait des habitudes. Et le théâtre, il défait toutes ces habitudes. Vous voyez, ça, c'était assez beau à voir aussi. Comment les choses se sont déplacées pour tout le monde, pour eux, pour nous. Mmh.
Et sur le récit de la traversée, puisque, comme le disait Martin, il y a cette façon de... Alors, il y a de l'humour dans le spectacle, il y a aussi donc de la distance par rapport à la gravité des choses. Comment ça résonne en vous, qui vous êtes justement attaché à nous donner l'évocation du résultat dramatique d'une traversée dans cet album Méditerranée ?
Eh bien, oui, je sais comment... Comment sortir l'individu de la masse? On s'est souvent posé la question, hein, depuis longtemps, hein, même à la Shoah, de comment parler de millions de morts? Et il faut arriver vers quelques individus, les sortir, mettre un projecteur sur un individu,
sur une
pour
voie.
Pouvoir faire qu'on puisse se prendre cette personne avec soi, quoi, qui ait de l'empathie avec, qui est que ce soit possible. Et c'est le problème, effectivement, de là, je me suis posé cette question, parce que quand je suis au bord de la mer à Nice, je pense à ces milliers de gens tous les jours, puisque c'est des milliers tous les jours. Mais comment ces milliers, ça veut rien dire. Il y en a des milliers sur la plage à Nice de personnes qui se baignent. Et des milliers et des milliers, ça veut dire quoi? Comment les opposer? Comment opposer ces gens qui se baignent avec les enfants là à Nice et qui ont du bonheur et sur toute la Méditerranée comme cela? Et d'autres qui se noient sur des zodiacs ou des barques, hein. Comment faire?
Et vous êtes justement, vous, le peintre, le dessinateur, vous n'avez pas choisi un visage, mais une voix.
Parce que ça aurait été trop fort. Je pouvais pas dessiner un visage. Non, là, c'est impossible. Hein, pourquoi? Quel visage? Mais une voix, oui, ça peut. Comme la radio. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui bricole un récit sans montage, mais tente néanmoins d'être distanciée. À suivre, le noir, le blanc et le bleu de Baudouin pour raconter l'individualité des rêves échoués dans son album Méditerranée et le regard théâtralisé d'Olivier Coulon-Jablonka pour cette pièce 81 avenue Victor Hugo. Musique.
Ping Pong.
Musique.
La culture sans limite.
Elle aussi saute les frontières, celles dessinées sur les cartes Mercator et gardées par des militaires, mais aussi celles de la musique traditionnelle et du rock du désert. Elle, c'est Noura Mint Semali, chanteuse mauritanienne, que Ping Pong et son programmateur musical Thomas Beau vous invitent ce soir à écouter. Petit A, parce que sa musique, que d'aucuns qualifient de blues psychédélique, une musique à la fois brute, électrique et immémoriale, eh bien vous prend d'emblée aux tripes. Petit B, parce que dans une république islamique où les discothèques et les bistrots ont été interdits, de voir que c'est une femme qui incarne le nouveau visage et la voix de la Mauritanie, ça a quelque chose de réjouissant. Et enfin, parce que petit C, ces chansons qui mêlent le fracas du monde terrestre et les élans spirituels en appellent toujours, in fine, à la responsabilité des hommes. On écoute Mohamed Oun. Mohamedoun, interprété par Noura Mint Semali au chant et à la hardine, cette harpe traditionnelle à neuf cordes. La guitare flange de son mari, on l'entendait, son mari qui, comme elle, descend de Griot, c'est Jeyche Ould Chigali. Il y avait la basse ondoyante d'Ousmane Touré et Mathieu Tinari à la batterie. C'est le nouvel album donc de Noura Mint Semali, Arbina, qui sort sous le label Glitter Beat et qui sera disponible vendredi prochain, le 16 septembre.
Ping-pong.
Une image et une seule, hein, la même partout ce matin, la une de la presse européenne. Du Guardian de Londres à la Repubblica de Rome, en passant par le journal madrilène El País, tous ont choisi de publier cette photo particulièrement choquante d'un enfant syrien mort échoué sur une plage turque alors qu'il tentait de regagner la Grèce. Island, 3 ans. T-shirt rouge et short bleu, y apparaît face contre terre. Un autre cliché le montre tellement minuscule lorsqu'il est transporté dans les bras d'un officier. Dans la nuit de mardi, empruntant l'un des plus courts passages maritimes entre la Turquie et l'Europe, plusieurs bateaux ont chaviré, rapidement prévenus par les cris des naufragés. Les sauveteurs ont repêché 12 corps sans vie, parmi lesquels celui de ce petit garçon, dont les photos ont aussitôt envahi les réseaux sociaux sous le mot dièse « l'humanité échouée ».
C'était il y a un an sur les ondes de France Culture. Thomas Cluzel, le lendemain de la publication de cette photo du petit Aylan, vous vous souvenez de ce titre, Someone's Child, l'enfant de quelqu'un. Baudouin, quand on regarde votre album Méditerranée, forcément, il y a cette page inaugurale qui nous rappelle cette image qui nous a impressionnés au sens premier il y a un an. Et aussi cet incipit, là sur la plage, la petite fille ne dort pas. Elle ne rêve pas, elle a rêvé et elle ressemble effectivement à cette Hélène qui n'est pas endormie. Est-ce que c'est cette image qui a déclenché ce trait ?
Oui, en même temps, elle m'a posé beaucoup de questions. Je voulais prendre quelque chose d'aussi énorme et de partir sur un livre même de 14 pages. À partir de cela, c'est... J'aime pas me raccrocher, l'impression de se raccrocher à quelque chose pour faire bien. Hein, pour ça, là, on pleure là. Hein. Mais je passe au salon du livre de Montreuil. Je vois des livres magnifiques. C'est le plus beau salon de livres d'enfants, Montreuil. Hein. Et je vois des livres illustrés magnifiques et des choses très belles, mais pas sur l'actualité. Et en colère un peu, je rentre chez moi et je mets des feuilles de papier par terre et puis je prends un pinceau. Et là, je me suis pas posé la question. J'étais donc, comme tout le monde, dans cette émotion.
Mais au-delà de cette page inaugurale et de cette silhouette inspirée de ce petit garçon, de cette image de l'actualité que vous avez donc choisi d'incarner sous les traits d'une petite fille, les 14 pages de cette Méditerranée que vous publiez chez Gallimard, Baudouin, c'est l'irreprésentable. Ce sont des traits qui évoquent la mer Méditerranée, comme le titre nous invite à le penser, mais c'est vraiment l'irreprésentable. Parlez-nous justement de ce choix singulier, de l'abstraction et peut-être de la colère qui vous animait encore quand vous aviez les pinceaux à la main.
Il y a les deux choses. Je suis né à Nice, devant cette mer où toutes les cultures sont nées là, hein, depuis la mythologie et les autres mythologies ensuite. Et c'est dans ce creuset-là, quand je vais au bord de cette mer et que je regarde de l'autre côté, il y a la Tunisie, de l'autre côté, il y a le Maghreb, et c'est les mêmes hommes que moi. Hein, cette mer, tout autour, c'est des Méditerranéens. Et de l'autre côté, derrière, c'est l'Afrique. L'Afrique qui veut venir en Europe, une partie de l'Afrique, parce qu'ils sont pillés depuis maintenant le XVIIe siècle, et qui maintenant ont des portables, ont des smartphones, ça s'appelle, ils regardent comment nous vivons, et ils veulent vivre comme ça, tout de suite. Ils veulent pas attendre qu'on leur dit l'Afrique plus tard, bientôt, mais ils veulent tout de suite. Et ils ont le droit, et ils veulent passer, mais c'est au péril de leur vie. Et nous, on met des fils de fer au milieu de la Méditerranée. C'est pas possible, cette histoire-là. On a le droit de changer de pays, on a le droit d'immigrer.
Et pourquoi l'avoir représenté, non pas sous la forme de smartphone, de ligne de fer, mais justement de ces vagues, de ces traits de pinceau dansant?
Je les regardais tellement, ces vagues. Et puis, j'allais plus à l'école à partir du mois d'avril pour aller voir les vagues. Une vague, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous regardez une vague, vous vous mettez dans un lieu donné, vous regardez la vague. Elle arrive. Enfin, elle arrive, oui, elle se déplace, elle vient, elle explose là sur les rochers. Et cette vague n'a jamais existé et elle n'existera plus jamais. Donc, vous l'avez vue là et c'est fini. Plus jamais il y aura cette vague. Et donc, il faut la faire sienne. C'est ce que j'ai essayé de faire 14 fois sur ce livre.
Et voilà. C'est pas dit cette fois, Cécile Cassard, c'est 14 fois la vague. Mais justement, parlez-nous de ce trait, Baudouin, parce qu'il lui arrive des choses. Il va être dans une intensification progressive, puis il va se diluer. Il y a cette phrase quand vous écrivez dans Méditerranée, « La Méditerranée, c'est de la vie, elle doit le rester ». Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte métaphoriquement, cette vague? Moi, j'ai pensé à une sorte de cardiogramme qui finirait par ralentir.
Eh bien, c'est une belle image. Oui, il y a. J'ai toujours, comme après la tempête, il y a le calme, hein, ça revient le matin. La mer, si vous la voyez le matin, elle est toute douce. Et seulement, voilà, il y a des gens en dessous maintenant. Hein. Je suis terrible en disant cela. Hein. Il y a sous la vague. Hein. Elle est aussi comme un monstre, la vague, mais les pêcheurs le savent. Et alors là, les pêcheurs de toutes les mers, hein, pas seulement de la Méditerranée. Et là, les choses aussi belles, aussi tendres, sont en même temps d'une violence inouïe. Hein. Elles nous dévorent, mais comme le feu, comme tout ce que nous vivons. Hein. Et donc, j'ai voulu mettre les deux. Oui, les vagues. En principe, on plonge sous la vague pour pas être emporté. Hein, on joue comme cela quand on a la possibilité de jouer et de nager.
Et Olivier Coulonge-Ablanca, justement, puisqu'on parle du trait de Baudouin, on a envie de parler de votre lumière. Je sais que vous dites souvent que vous voulez éclairer les ténèbres, souvent, enfin vous l'avez dit une fois en tout cas, éclairer les ténèbres de notre temps, trouver un peu cette lumière vacillante et menacée que peut apporter le théâtre. Alors, puisque Baudouin a essayé donc de nous raconter ce ressenti paradoxal et terrible face à la Méditerranée, quelle lumière vous avez apporté sur justement ce récit de son papier qu'on découvre dans le spectacle 80 avenue Victor Hugo?
Oui, moi j'entends bien sa question de contractualité aussi. Contre l'actualité, avec, mais aussi contre. Et donc cette histoire de lumière, pour moi, au théâtre, c'est toujours ça, c'est de pas être... on peut pas représenter l'actualité ou le présent. Donc bon, moi, très souvent, j'appelle des textes, par exemple Kafka, là en l'occurrence, mais parfois de façon vraiment plus lointaine. Par exemple, je sais pas, sur l'urbanisme, on va aller voir du côté d'Offenbach et de la vie parisienne, vous voyez, pour créer des écarts. Moi, ce que j'entends un peu et ce que j'ai vu de ce livre, c'est la forme méditative, elle vient contraster avec cette première image, quoi. Et donc on cherche forcément comme ça des contrastes pour faire ressortir des tensions et des questions. C'est aussi le trait qui s'interroge. Enfin, moi je vois un trait de l'artiste qui se travaille, qui se cherche en même temps.
Je crois qu'on cherche de la musique, on cherche aussi à faire de la musique. La peinture, le trait d'une vague, c'est une musique. Mais y opposer le texte, pas le souvenir, mais le rêve de cet enfant. Le texte sous la vague ou au-dessus, ça aurait été pareil, hein, c'est pas de le mettre en dessous ou au-dessus. Mais là, il y a quelque chose d'opposition qui se joue. Et dans les oppositions se crée la musique, dans les oppositions se crée la vie, puisque musique, vie, tout cela, c'est ensemble. On cherche à faire des oppositions avec des personnages avec leur mémoire. C'est pas très éloigné, son travail, hein, avec de la mémoire, et puis les personnages qui sont là sur la scène, les hommes là qui sont là, et opposer des choses comme cela dans ce monde qui nous échappe complètement aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qu'on vit? On le sait pas. Un sociologue ne peut pas dire, peut dire vaguement ce qu'il y a aujourd'hui, mais il peut pas se projeter dans 6 mois devant. Hein, et donc, on ne peut que mettre comme ça des éléments, non pas qui vont servir, on sait même pas si ça va servir, parce que ces éléments eux-mêmes vont être en contradiction avec ce qui va arriver dans très peu de temps. Mais on fait des photographies, mais non pas des redondances, hein, non pas des photographies redondantes, mais quelque chose qui s'oppose et qui peut-être permet de continuer à vivre encore un peu.
Mais alors, à propos de contradiction, Baudouin, dans la notion même de trait, il y a une contradiction, parce que le trait, c'est celui du peintre, comme vous, dans cet album Méditerranée, mais c'est aussi la flèche, le trait qu'on décoche. Vous avez été sniper dans une autre vie, vous avez oui. fait un petit album l'an passé dans la collection Pattes de Mouche à l'association, sur votre expérience de sniper qui finalement n'est jamais parti faire la guerre d'Algérie, parce qu'on avait besoin de vous pour tirer sur des cartons dans des concours à Versailles. Voilà, parlez-nous justement de votre art du trait, parce que vous êtes connu pour votre trait en noir et blanc, votre travail au pinceau et à l'encre, et vous devenez de plus en plus peintre, en particulier dans cet album, avec la couleur, avec le bleu. Voilà, est-ce qu'il s'agit du tir comme un maître zen, un travail sur la respiration?
Ça y ressemble, le trait. Comment dire là, cette chose-là? C'est quelque chose avec une présence, être au plus près de la présence. Mais c'est quoi la présence, hein? C'est... on peut aller le chercher avec la méditation, mais faire un travail de dessin, c'est méditer tout en créant, tout en étant vivant avec le papier. Mais là, on peut rejoindre les Chinois, hein. Qu'est-ce que c'est? Le pinceau, l'encre et le papier, puis la main de celui qui tient ce pinceau. Et à ce moment-là, quand j'allais en prison, j'allais quelquefois en prison, pour rencontrer des détenus, et parler de l'art, ça voulait rien dire pour eux, hein. Et alors je leur parlais du football, parce que je voyais pas comment parler de l'art. Et je parlais de Thuram, quand il avait marqué les 2 buts, et je leur disais, quand à la 2e fois il se met à genoux avec le doigt, je crois, sur le nez, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il me répondait des choses, et je leur disais non. Ce qui, et j'ai posé la question à Thuram et il m'a confirmé. Non. Il est étonné parce que il a su, quand il avait la balle à son pied, qu'il allait pouvoir marquer le but, et ceux qui venaient le dribbler, l'empêcher, savait qu'il pouvait pas l'empêcher. Et le goal, à la fin, il a plongé, mais il savait qu'il pouvait pas l'empêcher. Eh bien, ça, c'est le trait, hein. C'est ce moment où nous sommes, lui, l'herbe, le public qui crie, son sang qui circule bien dans ses veines à ce moment-là. Peut-être sa copine le soir qui lui a dit t'es beau, hein. Quelque chose comme ça, qui fait que rien. Il est dans une seconde, mais il peut pas en marquer 250 de buts. Il n'est pas toujours là-dedans, hein. Il est une fois. Eh bien, le trait, c'est ça. Et le trait, on le tient, et puis quelquefois, il s'en va, et puis, il faut jeter le papier. Petit, je savais que je dessinerais. Oui. Je ne savais pas que j'allais faire des livres, mais je savais que j'allais dessiner. Oui. Je savais que j'allais passer ma vie à dessiner. Oui. Alors que j'ai fait comptable, hein.
Alors vous êtes aussi la vedette de certains films, de documentaires. 2 documentaires vous ont été consacrés, Baudouin. Le dernier en date, Edmond, était signé Laetitia Carton. Vous voyez d'ailleurs notamment commencer un trait avec plaisir, comme vous avez pu le dire d'ailleurs, quand vous tiriez comme un sniper, c'est du plaisir, et puis tout d'un coup, le trait vous échappe et vous êtes en train de merder, comme vous dites, et il faut jeter le papier. Je reviens encore une fois à ce tout petit opuscule « J'ai été sniper », dans lequel vous écrivez « L'Algérie était mon avenir », c'était en 1962, et puis finalement vous n'avez pas traversé la Méditerranée à ce moment-là, donc parce qu'on avait besoin de vous pour des compétitions de tir.
Tellement depuis, vous tiriez bien.
Voilà, vous étiez le meilleur, et vous battiez même les officiers, ce qui était une satisfaction. Depuis, vous avez traversé la Méditerranée à de nombreuses reprises pour aller en Égypte, au Maroc, au Liban. Pourquoi justement n'avoir pas choisi de représenter l'autre rive de la Méditerranée, celle vers laquelle vous regardez avec ce nouvel album?
C'est vrai. Je suis allé en Égypte pour parler de d'une ville de la Méditerranée qui ressemble à cette partie-là, oui. Mais, comment dire, je suis tellement là, tellement eux aussi, quand je musais les mains en faisant les murs de pierre sèche, eh bien, c'était mon usure des mains, c'était la même de ceux de l'autre côté de la Méditerranée. Mais votre question est juste. Pourquoi je ne suis pas allé là-bas, à partir de là-bas? Mais vous savez, à Nice, on parle de Calais, on parle des migrants, mais tout de suite à côté, là, il y a Menton, et là, il y a la frontière avec l'Italie. Eh bien, celle-là, elle est terrible aussi de frontière. Hein. Il y a des centaines et des centaines, là, de migrants aussi. Cet été, je me suis interdit d'aller là faire des portraits de ces migrants, parce qu'alors, j'allais passer tout mon été là. Je savais que si je mettais le pied là,
vous êtes connu pour faire ça aussi.
Avec troupes, et de là, on était foutus. Donc, partout, il y a des abcès, mais c'est pas des abcès, c'est de la vie. C'est de la vie à l'état pur quand on dit abcès, parce que nous, on veut pas, non. On veut se protéger comme si on pouvait se protéger des migrations. On veut se protéger, mais donc, oui, j'aurais pu aller de l'autre côté, j'aurais pu aller tout simplement à Menton, quoi.
Hein, pourquoi vous vous êtes retenu de pas faire justement ce dessin?
Parce que je me disais, je viens 2 mois dans le sud. Ah là là, si je mets un pied là, je serai pas avec mes oliviers, ça c'est sûr. Hein, je vais y être tous les jours, je vais camper là-bas. Je sais que je suis happé on est happé par ces choses-là. Hein, c'est un moment de vie où on ne sort pas de. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier, de ça?
Oui, je suis d'accord. Moi, je vois des gens autour de moi qui commencent à. Ma Camille, par exemple, qui travaille avec moi, qui est mon collaborateur sur le 81 avenue Victor Hugo.
Camille Planier.
Qui vit à Jerez, donc il a commencé à servir des petits déjeuners. Et alors, il n'y a pas de raison que le petit déjeuner pour les gens qui campent là le lendemain matin soit pas là. Donc, c'est quelque chose où, en effet, ça engouffre.
C'est un gouffre.
Ça engouffre.
Ouais. C'est ce que disait le photographe de l'agence France Presse, justement, Haris Messinis, qui a remporté le visa pour l'image, le visa d'or, cette année. Il dit que c'est pas possible au bout d'un moment parce que lorsqu'il couvrait les zones de guerre, finalement, il se trouvait dans une situation presque égale. En tout cas, il risquait lui aussi sa vie. Mais en revanche, les photographies des migrants, il dit ici, on ne risque rien. C'est pourquoi souvent je lâche le boîtier et j'aide. C'est un besoin. Donc c'est vrai que vous sentez cette tension, vous allez basculer dans, finalement, poser le crayon, Baudouin ?
Absolument. Hein, et vous savez, il y a des gens qui les aident. Hein. Je suis aussi de là-bas, hein, puis il y a des montagnes tout près. Et je sais les passages un petit peu pour faire venir par les montagnes. Je pourrais être un passeur, hein, un passeur gratuit, hein.
Lundi d'ailleurs, c'est bon à savoir.
Je vous voyais pas dans l'arnaque.
Lundi prochain sur France Culture, d'ailleurs, dans la série documentaire, vous pourrez découvrir un documentaire de Raphaël Kraft qui a parfois posé le micro pour passer avec des gens qui n'avaient pas de papier. Mais
Olivier Coulon-Jablonka, puisqu'on est là-dedans dans les passages, je me dis que ça finit sur Ouvrez les frontières, votre spectacle 80 avenue Victor Hugo, qui est chanté par cette troupe de sans-papiers. Cette idée-là, elle vient de la mise en scène. C'est-à-dire que c'est vous qui la portez ou c'est quelque chose qui a été amené dans les récits? C'est une chanson qui vous ont entonné?
Bon, il y a des choses dont on a discuté avec notamment cette fin. Après, ça a pris une autre tonalité dernièrement. Voilà.
Mais faudra découvrir donc au théâtre des
voilà, années, c'est selon les fois où on joue, c'est voilà, ça résonne pas tout à fait pareil là, je pense que je sais pas s'il faut le
dévoiler.
Non. Mais moi j'ai... Non, bien sûr, mais comment c'est venu?
C'est venu dans une discussion avec eux, Tiken Jafakoli, c'est quelqu'un qui écoute. Voilà, donc on a entendu ça, on a discuté avec eux, ça a pas valeur de slogan politique dans le spectacle, c'est pas tout à fait cette chose-là. Enfin, elle est traitée. Le théâtre aide à traiter ce genre de choses, quoi. C'est pas.
Et votre théâtre pose.
On joue avec.
Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Oui, je vois. On joue avec.
Il pose une question qui, je crois, est aussi posée par Baudouin dans ce nouvel album Méditerranée. Baudouin nous parle de cette petite fille qui a rêvé d'une école, d'amis au nord de la Méditerranée, d'avoir peut-être une nouvelle robe, sa mère qui rêvait, elle, d'une maison, d'un jardin avec des fraises à cueillir dedans. Et vous, il y a un des acteurs qui, en anglais, l'acteur qui vient justement du Bangladesh, pose la question « What is humanity ?» C'est quoi l'humanité ? Est-ce que vous auriez une réponse à nous donner ce soir à la lumière de votre spectacle, Olivier Coulon-Jablonka?
Oui, la personne qui parle ce texte est le seul bangladeshi du groupe. Et il ne parle pas du tout un mot de français, il a appris depuis. Et du coup, c'est dans ce cadre-là en fait, qu'il parle de l'humanité aussi. C'est-à-dire que quand on n'a pas la langue, on est... Je pense que c'est ce que vivent aussi les réfugiés aujourd'hui, c'est comment on arrive à décrypter la loi, comment voilà, on est toujours ramené à cette incapacité de maîtriser en fait la langue.
Et s'ils sont des aventuriers, comme ils le disent à plusieurs reprises, ils sont aussi des aventuriers de la langue. Pour vous, le metteur en scène, c'était aussi une aventure de la langue, cette langue-là qui est d'abord parole, qui est d'abord oralité.
Non, mais c'est magnifique comment il raconte les choses. Voilà, il le raconte. En effet, le texte, on n'aurait pas pu l'écrire. Je veux dire, c'est eux qui l'ont écrit. Nous, on a monté. Elle est difficile, votre question. C'est quoi l'humanité? C'est ça que vous me demandez?
Il y a une réponse. Moi, ce que je peux vous dire, c'est... Non, mais spectacle, ce que je peux vous dire, c'est que... Elle est disponible.
Effet, hein. Je pense que le gros problème, c'est que les droits de l'homme sont fondés sur l'État-nation. Et qu'on n'a pas de solution par rapport à ça. Les droits de l'homme s'appuient sur les États-nations, historiquement. Donc comment on fait pour des gens qui sont déracinés, etc. Mais là, il y a quand même quelque chose sur quoi il faut se pencher philosophiquement, politiquement.
Il faut ouvrir les portes, absolument.
Ping-pong, c'est déjà fini.
Merci beaucoup. Il y a aussi des frontières, non seulement spatiales, mais temporelles, qui viennent clore cette émission pour aujourd'hui, mais pas la réflexion que vous nous avez permis d'ouvrir, et certainement pas le chemin que vous avez ouvert vers vos œuvres respectives. Merci Baudouin et Olivier Coulon-Jablonka. Baudouin, Méditerranée, c'est votre nouvel album entre bande dessinée et peinture aux éditions Gallimard. Quant à vous, Olivier Coulon-Jablonka, vous donnez rendez-vous aux spectatrices, aux spectateurs de tous les pays du 13 au 17 septembre au Théâtre des Abbesses à Paris, puis les 8 et 9 novembre au Théâtre de Sartrouville-Yvelines dans le cadre du Festival d'automne, et puis le 12 septembre au Café des Œillets à côté du Théâtre des Abbesses. Il y aura une conversation, une rencontre entre vous et Mohamed El-Khatib sur l'écriture documentaire dans le théâtre contemporain.
Le ping-pong est un passage radiophonique gratuit où l'on travaille en équipe. Et quelle équipe? À la rédaction, Aïssat Ouendoy, Jeanne Léo, Seam Boutata et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Clément Daté et Nicolas Delmas.
Demain, eh bien, nous franchirons un autre bras de mer, c'est l'océan Atlantique, pour la journée spéciale L'Amérique aujourd'hui, avec le critique rock Grail Marcus et le romancier épique Laird Hunt.